Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Pour votre journal des idées, vous nous rejoignez ce matin. Et Jacques, nous l'évoquions dans le journal, la jeunesse européenne se mobilise pour le climat ce vendredi, la jeunesse française également.
Oui, et là, il y a cette manifestation à Paris à 14h, vous en avez parlé, Clara. Et là, comme dans une quarantaine d'autres villes, des collectifs préparent la grève scolaire internationale du 15 mars. À l'appel de la Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, devenue une icône de la lutte contre le changement climatique. Le Monde relaie ce mouvement de la jeunesse pour réclamer des actions en faveur du climat. Donc un mouvement qui s'est installé dans la durée. Si la première revendication, s'engager dans la voie d'une réduction annuelle de 4% des émissions de gaz à effet de serre afin de s'aligner sur l'accord de Paris, n'obtient pas de réponse dans la semaine qui vient, les étudiants mèneront une action de désobéissance civile vendredi 22 février avant de soumettre une nouvelle requête et ainsi de suite. Une pétition des élèves des grandes écoles appelle à repenser le comportement écologique des entreprises dans lesquelles ils travailleront. Les jeunes prennent la mesure donc des enjeux de leur propre futur. Face à la catastrophe, l'échec n'est pas une option, indique leur appel. Les jeunes, ils traversent en tous sens avec les poètes. Le dernier livre de Marielle Massé, publié chez Verdier sous le titre « Nos cabanes ». En particulier, le collectif d'artistes Catastrophe, dont une tribune tout entière dirigée vers la possibilité joyeuse, énergique, grave aussi, de reprendre la main sur l'imagination du temps et les façons de se rapporter au futur, évoque des ruines sociales, des occupations de place, des potagers numériques, des marges insolentes et généreuses de nous. Je cite « Enfants, nous avons pris connaissance du monde en même temps que de sa fin imminente. On avait déjà décidé pour nous qu'il n'y avait plus rien à faire. Nous n'avions pas 20 ans, nous arrivions trop tard. Alors que faire ? La réponse est simple, renaître comme il nous plaira. Partout, nous nous réapproprions nos heures. » D'où la métaphore symbolique, mais aussi concrète, des cabanes, celles des ZAD, des ronds-points, des jungles de migrants, des artistes et des poètes comme Olivier Cadiot. Je cite « 47% des vertébrés disparus en 10 ans. Faut qu'on se refasse une cabane, mais avec des idées au lieu de branches de saule, des histoires à la place des choses. Faire des cabanes pour occuper le terrain et jardiner les possibles, pas pour prendre place, faire une petite place là où ça ne gênerait pas trop, mais pour accuser ce monde de place faite, de place refusée, de place prise ou à prendre. » Et sans pour autant se contenter de peu ou s'accommoder de précarité de tous ordres, et encore moins les enchanter sans jouer aux nomades ou aux démunis quand justement on ne l'est pas, mais pour faire, c'est-à-dire braver à plusieurs, dans une joie très matérielle et surtout élargir les formes de vie et habiter cet élargissement. Quand on construit une cabane avec des branches ou des troncs d'arbres, les problèmes arrivent au moment où il faut faire tenir ensemble deux morceaux de bois. Canif et morceaux de corde n'y suffisent pas, il faut connaître des nœuds, savoir tailler des encoches symétriques. C'est que les assemblages, c'est le cœur technique de la charpente, souligne Arthur Lockman dans un beau livre publié chez Payot sous le titre « La vie solide, la charpente comme éthique du fer ». L'ex-étudiant en droit et philosophie qui a opté pour le métier de charpentier vante les mérites du système par excellence, le tenon mortaise, une pièce mâle terminée par un tenon qui s'enchasse dans une pièce femelle creusée d'une mortaise. En guise d'ouverture de ce récit d'apprentissage, un éloge du mot charpente, cette forte chair en pente, sonore et franche, qui s'est déclinée dans notre langue pour arriver à désigner l'ossature des corps ou l'organisation d'un raisonnement. Le charpentier travaille avec le bois car il offre des performances exceptionnelles au regard de son poids et de sa facilité de mise en œuvre. Après un aperçu des qualités propres à chaque essence, du sapin au chêne, depuis leurs conditions d'abattage, le rôle des cycles de la lune dans l'affaire, Arthur Lockman entre dans le dur, comment scier correctement, sans dévier ni multiplier les entailles avant d'assurer son plan de coupe. Faire en sorte, comme disent les anciens, que la scie trouve sa voie, car ce n'est pas la force qui coupe, mais le passage des dents sur la fibre. On y parvient en intégrant dans le geste non pas la seule main, mais tout l'ensemble qui part du bout de la lame jusqu'à l'épaule, en passant par le poignet et le coude, voire le positionnement des jambes, dont découle l'orientation du bassin et du buste par rapport à la coupe. Ici, comme dans bien d'autres pratiques, le bon geste de la main puise sa force dans le sol, on y revient, et l'outil dans le prolongement du bon geste, quand on commence à sentir directement à travers lui, c'est une merveilleuse extension du monde qui s'opère avec un tel développement du toucher.